Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
N'avez-vous pas remarqué ces dernières années quelques changements dans la musique liturgique ? Est-ce une manière de revenir aux fondamentaux ou de redécouvrir tout simplement la place de la musique dans la liturgie ? Quatre spécialistes nous répondent aujourd'hui. La musique liturgique, sens et évolution, c'est le sujet que je vous propose d'explorer aujourd'hui avec les invités de Radio Présence. Nous sommes avec Marie Petit, responsable musique du diocèse de Toulouse et formatrice en chant. Bonjour.
Bonjour.
À vos côtés, Anne-Marie Pouillon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable pour la province de Toulouse de la musique liturgique et directrice du 61e stage national de musique liturgique. Ce stage aura lieu du 27 juillet au 2 août à Lourdes.
Exactement.
Voilà. Donc c'est...
accompagner aussi la direction par les deux autres personnes dont vous allez parler.
Voilà, alors oui, c'est ça. L'autre personne qui s'occupe aussi de ce stage, c'est le père Gaël Raucourt, qui est prêtre du diocèse d'Albi. Il est justement en train d'arriver en studio. Je vais le saluer, mais pour l'instant, je vais le présenter. Le père Gaël Raucourt est responsable provincial de la pastorale liturgique et sacramentelle et donc directeur de ce même stage de musique liturgique qui aura lieu du 27 juillet au 2 août. Bonjour, bonjour père.
Bonjour Isabelle, bonjour à tout le monde.
Merci d'être là malgré les embouteillages. Et enfin avec nous par téléphone, Simon Juan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de la pastorale liturgique et sacramentelle du diocèse de Montpellier et aussi co-directeur de ce stage de musique liturgique qui aura lieu à Lourdes. Merci à tous les quatre d'être présents pour aborder ce beau sujet de la musique liturgique. J'aimerais bien que nous commencions tout simplement par une définition. Qu'est-ce que la musique liturgique et sacramentelle est et aussi qu'est-ce qu'elle n'est pas ? Est-ce que c'est Simon qui prend la parole ? Simon Juan ?
Oui. Oui, volontiers. La musique liturgique, on pourrait aller assez vite et dire que c'est la musique qu'on entend pendant les célébrations liturgiques. Quand on parle de musique liturgique, il faut penser musique rituelle. La musique liturgique, elle n'a de valeur que si elle est rituelle, c'est-à-dire qu'elle accompagne ou qu'elle accomplit le rituel, par exemple dans la messe, le rituel de l'Eucharistie. Et donc, ce qui n'est pas musique liturgique, ce serait une musique apposée, superposée, qui n'accompagnerait pas ou qui ne accomplirait pas le rituel de l'Église.
D'accord. Est-ce que vous auriez un exemple ? Vous avez cité effectivement pour l'Eucharistie donc une musique qui va accompagner ce rite propre de cette liturgie eucharistique. Est-ce que vous auriez un exemple de ce que la musique liturgique n'est pas ?
Alors, la musique liturgique, elle n'est pas un décor, elle n'est pas un ornement. Je peux vous donner un exemple de ce qu'elle est. Par exemple, quand nous chantons « Nous sommes le corps du Christ » comme chant d'entrée, eh bien, le chant nous permet de nous former, nous identifier comme le corps qui va célébrer ce corps dont le Christ est la tête. Ou par exemple, pendant la prière eucharistique, quand on chante « Saint, Saint, Saint le Seigneur », eh bien, on accomplit pleinement le rituel par le chant.
Père Gaël Raucourt.
Je voudrais rebondir sur ce que dit Simon avec... vous savez que notre pape Léon est en Espagne. Et je suis tombé sur un extrait de l'intervention qu'il a faite auprès de la communauté diocésaine de Madrid. Et... alors, je n'ai pas entendu l'introduction du cardinal archevêque de Madrid qui apparemment a fait une parabole sur le chant. Mais l'extrait que j'ai entendu du pape Léon, il souligne que chanter, c'est interpréter les événements et les situations en célébrant avec les autres le sens qu'ils rayonnent. Et il précisait que pour l'Église, cela se produit de manière singulière dans la liturgie, le grand mémorial de l'histoire qui nous a sauvés. La musique ainsi est liturgique dans la mesure où, eh bien, elle nous permet de célébrer l'histoire et les événements de l'histoire en les faisant résonner dans la vie des hommes de ce temps, d'aujourd'hui. Mmh. Et tout en réactualisant ce grand mystère, j'allais dire, qui traverse les âges en actualisant la grâce pour nous aujourd'hui, dans le temps présent. Mmh.
Marie Petit, vous êtes professeur de... Enfin, oui, vous êtes aussi professeur de chant. Oui. Et c'est vous qui animez aussi la chorale lors de grands rassemblements diocésains, notamment. Oui. Quelle est la place du chant, très précisément, dans la liturgie?
Alors, elle a une grande place, elle occupe dans la liturgie une grande place. Et comme disait Simon, elle s'accomplit pleinement quand elle accompagne les rites. Voilà. Donc moi, je ne chante pas tout seul, je dirige le chœur diocésain. C'est plutôt eux, d'ailleurs, qui chantent dans les grandes célébrations diocésaines. Donc ces 60 choristes sont là pour soutenir le chant de l'Assemblée, pour que l'Assemblée prenne part à l'action liturgique avec eux, parce qu'il faut un soutien, voilà, avec l'organiste, bien sûr, et les instrumentistes liturgiques.
Mmh, oui. Quels sont les critères de choix d'un chant par rapport à un rite? Comment vous faites pour choisir tel chant plutôt qu'un autre?
Alors, il y a plusieurs critères, voilà, par rapport déjà au moment de la messe où on le chante. Voilà, donc, il y a, par exemple, le chant d'entrée accompagne la procession d'entrée, mais aussi unit les fidèles en un corps, comme disait Simon. Donc, on va pouvoir prendre des chants plutôt qui parlent d'un « nous », qui deviennent un « nous », en tout cas, et qui accompagnent la procession, donc qui s'arrêtent au moment opportun, c'est-à-dire quand la procession d'entrée est terminée. Voilà, enfin, faut toujours adapter, on ne s'arrête pas non plus au milieu d'une phrase. on cherche toujours la cadence finale.
Mmh, d'accord. Autre procession, il y a la procession de la communion. Là aussi, c'est un chant qui doit accompagner cette procession.
Père Gaël, recoule. Alors, pas nécessairement. Pour la communion, il y a une plus grande souplesse parce qu'on peut prendre effectivement un processionnal donc, qui va nous inviter à nous avancer vers l'autel, en marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie, enfin voilà, qui nous met dans la disposition à recevoir le corps du Christ. Mais on peut aussi envisager qu'il y ait simplement de la musique, par exemple à l'orgue, pendant la communion, et après la communion, prendre une hymne d'action de grâce qui va nous aider à intérioriser le don reçu, alors qui va plus peut-être nous tourner vers ce mystère justement de la communion, au sens du corps constitué, puisque quand nous communions, ce n'est jamais simplement notre relation personnelle au Christ qui est renforcée, mais aussi entre les membres. Hein, il y a toujours les deux dimensions, verticales mais aussi horizontales d'une certaine manière, de la communauté fraternelle. Je crois qu'il est beau et bon, et cela fait partie aussi de la richesse de la liturgie en général, et de la musique liturgique en particulier, de nous proposer aussi diverses mises en œuvre possibles à travers les chants et les rites. Tout cela prévu, bien sûr, dans le missel et dans la grande tradition de l'Église, pour nous donner de goûter différents aspects du mystère que nous célébrons.
Simon Juan, qui est avec nous par téléphone, est-ce que vous voulez réagir à ce qui s'est dit à l'instant?
Oui, c'est très beau d'envisager la liturgie comme le cadre qui nous est offert par l'Église et dans lequel nous pouvons exercer notre liberté par ces choix, à partir de certains prérequis sur lesquels il faut qu'on s'entende. Par exemple, il faut que le texte soit absolument le reflet de la théologie de l'Église catholique. On ne peut pas chanter un texte qui parlerait d'une piété quelconque. Il est très important que le texte soit premier. Donc, si on est sur les processionnaux dont on parlait, eh bien, on doit vérifier que ce texte relève de la théologie de l'Église. Et puis, pour les chants qui accomplissent le rituel, le Sanctus, l'Anamnèse, on a des textes au missel romain qui sont proposés et qui sont théologiquement justes. Et on a ce choix sur la mise en musique, effectivement, en fonction du temps liturgique ou de la solennité.
Mmh. Et comment fait-on, puisque vous dites, Simon-Jean, qu'il faut vérifier que le chant relève de la théologie de l'Église, comment fait-on pour vérifier que, si on est dans une petite église de campagne, est-ce qu'on est vraiment, est-ce qu'on est dans les clous?
Alors, on ne, On ne va pas à la chasse des pratiques sur le terrain. Simplement, on a quelques outils qui nous permettent d'être efficaces. Alors, il y a la formation propre qu'on encourage auprès des acteurs de la musique liturgique, qu'ils aient une formation sur le chant, peut-être sur la Bible, sur la théologie. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle le SECLI, qui est un groupement d'éditeurs qui permet aux chants, aux compositeurs et aux auteurs de recevoir un numéro. Dans notre jargon, on appelle ça une cote. Si le chant reçoit une cote, ça veut dire qu'il a été lu par un expert, en tout cas au moins le texte.
Donc le
Et
texte est
donc,
validé théologiquement.
on peut estimer qu'il a été, voilà, s'il a été coté, il a été validé théologiquement. C'est un bon outil, ça.
C'est un bon outil. Père Gaël Recoul, sur la place de l'orgue dans la liturgie.
Le Concile Vatican II rappelle dans la Constitution sur la Sainte Liturgie que l'orgue est l'instrument premier pour l'accompagnement de la liturgie. Nonobstant le fait que d'autres instruments peuvent s'agréger à lui pour voilà, embellir, enfin, approfondir peut-être cette grâce de la musique liturgique. Après, nous le savons bien, toutes les églises ne sont pas disposées d'un grand orgue, voire tous les orgues ne sont pas pourvus d'organistes non plus. Et donc, il y a la possibilité ensuite de s'ouvrir à d'autres accompagnements musicaux, avec parfois des claviers électroniques, des guitares, etc. La chose extrêmement importante, et je profite d'avoir le micro pour le dire ici, on a parlé de la grammaire et de la théologie du texte. En fait, la musique est elle-même un langage qui a sa propre grammaire. Et un des grands, j'allais dire, un des grands lieux de conflit aussi de la liturgie et concernant le volet de la musique liturgique, c'est sur les, on va dire les styles, entre guillemets, de chant. Et en réalité, la question qui se pose est celle de la grammaire musicale. Comment est-ce que le chant est écrit? Il y a une exigence, et Simon l'a très bien rappelé, au niveau du texte qui est proclamé. Mais en réalité, il y a aussi une exigence, et le Concile Vatican II la demande très explicitement dans la Constitution sur la Sainte Liturgie, que les chants composés répondent au grand, voilà, pour le dire avec cette expression, à la grande grammaire, hein, de la musique. Beaucoup de personnes, j'allais dire, se prétendent compositeurs, mais on peut écrire de la musique comme certains peuvent écrire des poèmes très fades. Moi, si je me mets à écrire de la poésie, ça va pas être du grand
Chacun ses
art.
talents.
Exactement. Mais justement, chacun ses talents. Et donc, être composé de la musique ne s'improvise pas. Cela se travaille et cela demande aussi, voilà, une étude particulière. Et donc cela révèle une exigence particulière parce que derrière cette exigence-là, il y a quelque chose d'une expression de la beauté qui vient traduire et qui vient aider à entrer dans le mystère. Et donc, c'est pour cela que, alors souvent les organistes reçoivent cette formation, hein, en particulier, pas toujours, pas tous, mais quand même globalement, notamment dans l'accompagnement, notamment dans l'harmonisation. Et c'est aussi peut-être et sans doute pour cela que l'orgue garde la première place dans l'accompagnement musical de la liturgie, restant sauf le fait que s'il n'y a pas d'orgue, s'il n'y a pas d'organiste, voilà, d'autres instruments peuvent heureusement aider à cet accompagnement-là.
Oui, bien sûr. Alors, il y a évidemment beaucoup de modifications ou d'adaptations qu'on a pu repérer dans les dernières années. Alors, en préparant cette émission, vous me disiez qu'en fait, ça n'était pas nouveau, puisqu'il y a eu en 2018 la nouvelle traduction du lectionnaire et en 2021 la nouvelle traduction du missel. Et pourtant, il y a quand même des évolutions qui apparaissent longtemps après dans les paroisses. Qu'est-ce que ces changements nous disent? Sur quoi sont-ils fondés? Est-ce que vous voulez répondre peut-être vous, Marie Petit ou Anne-Marie Alors, Marie Petit, non? Qu'est-ce qu'il veut répondre sur ces changements qu'on repère maintenant, par exemple le psaume. Aujourd'hui, on ne reprend plus forcément le refrain entre chaque couplet de psaume, ou bien quand on chante le Gloria, on ne reprend plus le refrain du Gloria à la fin. Voilà, Père Gaël Roucoul.
Alors, ces modifications, j'allais dire, sont belles. Alors bon, moi, je n'ai pas tout à fait 40 ans, donc je n'ai pas connu toutes les évolutions depuis le Concile Vatican II. Mais je dirais, bon, d'une part, elles évitent de trop s'endormir dans des pratiques, voilà, dans certaines pratiques. Voilà. Ouais. Mais en même temps, elles nous font pointer du doigt aussi la tradition vivante de l'Église. Par exemple, dans les discussions ou les débats qu'il peut y avoir avec les communautés traditionnalisantes, par exemple, qui prétendent être figées sur le missel d'avant le Concile Vatican II, en réalité, même ce missel-là a vécu beaucoup d'évolutions, de modifications, de transformations, d'ajustements aussi, de divers ordres, ce n'est pas le sujet du jour. Mais nous aussi, dans ce travail, il y a eu un premier travail de traduction qui a été fait de la Bible de la liturgie, du lectionnaire, du missel après le Concile Vatican II, qui répondait à certains critères, et avec l'usage, avec certaines avancées aussi peut-être théologiques, spirituelles, pastorales, eh bien voilà, l'Église réfléchit et se dit, mais peut-être il faut repenser aussi cette traduction, la réajuster. Et ça a été donc l'objet de la nouvelle traduction, d'une part, de la Bible de la liturgie, qui a donné lieu au nouveau lectionnaire, et puis ensuite au missel aussi, et donc avec quelques modifications substantielles dans le Notre Père. Alors, beaucoup plus modeste, parce qu'on est passé d'un singulier au pluriel pour le Gloria, le péché qui devient les péchés. C'est-à-dire, on ne reste pas sur quelque chose d'abstrait, mais sur le concret, etc. Et tout cela, en fait, c'est l'occasion pour les psaumes. Ça a donné, du coup, l'invitation à repenser le psautier. Les compositeurs, justement, se sont mis à l'œuvre pour composer, écrire de nouvelles antiennes, les refrains des psaumes, de réfléchir peut-être à la manière d'exécuter le psaume à la messe, d'y participer. Tout cela, c'est l'occasion de se reposer les questions du pourquoi est-ce que l'on fait ça, quelle grâce nous est donnée là, et de renouveler un petit peu aussi le genre.
Simon Jean, est-ce que vous...
Bien...
Oui, je vous laisse la parole.
Oui, justement, à apporter quelques exemples à partir de cette... La question de la tradition doit toujours être pensée de façon vivante. Je crois que ça illustre que la tradition, c'est vivant. Et à partir du moment où on marque une rupture, peut-être qu'on rompt d'une certaine façon avec cette tradition vivante. Je pense à cet exemple du Gloria dont vous parliez tous les deux, où on reprend plus le refrain. Mais si vous regardez un Gloria au 19e siècle, 18e siècle, un Gloria grégorien, il n'y a absolument pas la notion de refrain. Et voilà, alors j'imagine que pour des raisons pastorales, le refrain est apparu après le Concile Vatican II, parce qu'on a eu vraiment ce souci de faire participer l'Assemblée. La Constitution sur la liturgie parle de participation active, et je pense qu'il y a eu vraiment ce désir-là, et on a cherché à honorer ce désir. Mais voilà, le Gloria, c'est une hymne vénérable dont on a des traces au IVe siècle dans la liturgie de Noël. Et le missel romain dont on parle, qu'on a entre les mains quand on célèbre l'Eucharistie dans sa troisième version typique dont parlait Gaël, il contient des oraisons du troisième, du deuxième siècle. C'est tout à fait extraordinaire de se dire que ces paroles-là sont de nouveau sur nos bouches, alors qu'elles y ont été il y a 1800 ans.
Oui, c'est vrai, c'est beau cette continuité, cette tradition qui perdure. Un mot peut-être sur la place du chantre et sur sa posture, Marie Petit.
Oui, alors voilà, en célébration, on voit souvent une personne devant qui aide au chant, ou qui parfois, par ses gestes, essaye de, comme on peut dire, animer l'assemblée. Alors, est-ce que c'est le terme juste? C'est un peu avec ça qu'on réfléchit aussi avec les stagiaires au stage de musique liturgique. Nous, on préfère parler de chantre plutôt que de l'animateur, parce que finalement, un animateur devrait animer quelque chose, alors que l'assemblée, me semble-t-il, est déjà bien vivante quand elle arrive dans l'église. Le chantre a vraiment un grand rôle dans les célébrations parce qu'il doit réfléchir à adapter ses gestes, ses attitudes à l'action liturgique qui se déroule. Voilà. La liturgie est toujours le centre. Donc l'animation, la musique, les chants et tous nos gestes sont au service en fait de la liturgie et des rites. Donc c'est un peu ces pensées-là qu'on essaye de développer.
Vous auriez un exemple ?
Bien, par exemple, les gestes, parfois, quand on se lance dans l'animation, on va dire liturgique, on se dit « il faut que je fasse des gestes ». Oui et non, c'est-à-dire que mon geste ne doit jamais gêner, en fait, l'action qui se déroule, le rite. Et on peut tout à fait juste chanter et passer la voix par le micro s'il y a un micro, s'il y a besoin de micro. Parfois, il n'y a pas besoin de micro d'ailleurs.
Donc, on n'est pas obligé d'être devant, par exemple.
On n'est pas non plus obligé d'être devant, exactement. On n'est pas forcément obligé d'être visible. Ça dépend en fait des assemblées. Il faut toujours se poser la question dans le discernement de devant quelle assemblée je suis, dans quel contexte. Est-ce que c'est une assemblée de dimanche qui a l'habitude ou est-ce que c'est une assemblée peut-être un peu moins habituée lors de funérailles ou d'un mariage. Voilà, il y a jamais une réponse oui non. Il faut toujours un petit peu discerner par rapport à la réalité.
Donc voilà pour la posture et la place du chantre. Anne-Marie Pouillon, vous voulez compléter ?
Je trouve que Marie a très très bien présenté ça.
Je rajouterais volontiers, oui, sans vouloir monopoliser la parole, pardon. On rentre dans un sujet qui est passionnant, c'est le sujet des ministères dans la liturgie. La liturgie développe, met en œuvre une pluriministérialité, et la musique elle-même et les chantres sont ministres de la liturgie. Il est bon que dans la liturgie, chacun accomplisse pleinement la mission qui lui est rendue, mais uniquement la mission qui lui est rendue. C'est-à-dire, si je suis chantre, ben, ce n'est pas moi qui vais allumer les bougies sur l'autel, ce n'est pas moi qui vais habiller les servants à la sacristie, ce n'est pas moi qui vais remettre le col de la chasuble à monsieur le curé. J'accomplis pleinement le ministère qui m'est offert et pour lequel je suis investi. Complètement dédié, investi, exactement.
Oui, c'est ça.
Et voilà. Et donc, ma posture de chantre, eh ben, elle est liée à ce ministère que j'exerce pleinement.
D'accord. Je vous propose Marie, vous vouliez ajouter quelque chose avant la pause musicale ?
Oui, c'était juste peut-être de citer dans la présentation du Missel romain, justement, le rôle du chantre qui nous est donné dedans, au numéro 116, c'est guider et soutenir le chant du peuple. Et je trouve ça très intéressant, parce que c'est une phrase très courte, mais qui donne matière à penser. Voilà, guider et soutenir, et non pas chanter soi-même, quoi. C'est vraiment rendre le chant possible et le susciter pour l'assemblée.
Merci pour ces précisions, Anne-Marie.
Ce qui amène le chantre ou toute personne qui officie pendant la messe, ou quel que soit l'office, d'être très très vigilant et en permanente adaptation à ce qui se passe autour de lui pour être justement porteur au plus haut niveau et au mieux de l'acte qu'il présente ou du ministère qu'il représente.
Et bien ajusté, effectivement. Oui. Je vous propose de marquer une pause. Nous allons écouter « Avec ta joie ». C'est un chant qui a été interprété par les stagiaires du stage de musique liturgique en 2022 à Lourdes. Le texte est de Sœur Marie-Pierre Faure et la composition d'Henri Dumas.
présence. Vivante Église, Isabelle Duché.
De retour avec le Père Gaël Raucourt, Anne-Marie Raucourt, pardon, j'ai écorché votre nom, Anne-Marie Pouillon, Marie Petit et Simon Jouan pour parler de la musique liturgique. Dans cette première partie d'émission, vous avez évoqué à plusieurs reprises, Marie Petit, la nécessité de se former. Alors, nous allons parler évidemment de ce stage de musique liturgique qui aura lieu cet été, mais il y a aussi des formations qui ont lieu tout au long de l'année. Pourquoi c'est important de s'y intéresser?
Oui, alors tout à fait. La commission de musique liturgique, hein, elle a un petit peu pour mission de faire connaître, comme on disait, la place de la musique liturgique. Donc, quand je parle de musique liturgique, j'inclus tout le monde, les instrumentistes, les chanteurs, tout le monde, dans les célébrations. Et aussi d'éveiller, de développer un peu un savoir-faire auprès des paroisses, hein, en proposant des formations. Donc, sur l'année, ici, sur le diocèse de Toulouse, il y a plusieurs propositions de formations. Il y a les formations qu'on appelle sur le terrain. On vient chez vous, donc on est disponible, la commission, pour se déplacer dans les paroisses et proposer en fait par des thèmes. Voilà, par exemple, apprendre à chanter les psaumes, par exemple, le geste d'animation d'assemblée pour le chantre, comme on évoquait tout à l'heure, mais aussi comment discerner et choisir les chants de la messe. Voilà, plusieurs thèmes que l'on propose. Une deuxième proposition de formation, ça s'appelle les samedis chantants. Ce sont des samedis après-midi, il y en a deux ou trois par année, où la commission choisit le thème, le lieu et l'heure, on va dire, et donc toute personne de du diocèse ou même d'ailleurs peuvent s'inscrire. Et enfin, le stage de musique liturgique des provinces de Toulouse et Montpellier, dont on va parler tout à l'heure.
Voilà, alors effectivement, je vous donne la parole, Anne-Marie Pouillon, parce que vous êtes directrice de ce stage musical, de musique liturgique. Comment a-t-il évolué au long de ces années, ces dernières années?
Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir que c'est parti d'un monastère, tout à fait après Vatican II, donc c'est parti du monastère d'Ancalcate, qui était un monastère phare au niveau de la liturgie, parce que très audacieux, et étant déjà tenté de voir comment mettre la langue vulgate et non le latin auprès des paroisses pour que tout le monde puisse participer. Et dans cette dynamique, donc suite aux instructions au Conseil de Vatican II, en 64, donc ça remonte déjà à quelques années, par leur intuition pastorale, propre à ce monastère, les moines dans quel cas, donc, ont lancé la première session de musique. Et donc, elles étaient animées, ouvertes à tout le monde. Évidemment, au départ, beaucoup de religieux et de religieuses. Et petit à petit, les laïcs se sont de plus en plus engagés. Et en 1968, ce sont les responsables, les prêtres diocésains, puisqu'à cette époque-là, les laïcs étaient peu responsables encore à ce niveau-là, de la région apostolique de Toulouse, qui ont pris en charge, qui se sont appropriés et ont permis à ce stage de se développer. Puisque beaucoup d'entre eux étaient déjà à des postes clés de la musique. C'était vraiment des prêtres musiciens, des organistes, des maîtres de chapelle, quand on parle du chamane Carole, prêtre à la cathédrale Saint-Évode de Monaco, ou à Madame d'Arras, ou Xavier d'Arras lui-même, qui est très connu sur Toulouse.
Organiste à la cathédrale de Toulouse.
Ou Pierre Barthès, qui continue maintenant. Oui, c'était vraiment des prêtres qui avaient, en plus de la liturgie, la formation, et petit à petit, ils ont cédé leur place donc aux laïcs. Et le père Théophile Fouroux, donc le prêtre du diocèse de Pamiers, a été le premier à prendre la relève, avec une personnalité qui a permis aux gens aux laïcs simples, lambda, sans grande formation, de se sentir accueillis et capables de pouvoir aider et faire quelque chose. Il a appelé un prêtre du diocèse des R d'Aix, donc carrément de la province apostolique voisine, le père Ameslan, et à eux deux, ils ont porté le stage pendant de longues années, en faisant appel justement à Madame d'Arras, à d'autres paroles, Henri Carole, dont je vous ai parlé. Et petit à petit, la tâche s'est sentie. Ils ont senti qu'il était nécessaire et indispensable, s'entourer de laïcs et de personnes de tout bord, mais tous capables d'apporter un enseignement de par ce qu'ils sont et de par ce qu'ils ils pouvaient apporter. Donc. Et ils ont appelé des jeunes, des moins jeunes, et le visage donc, des stagiaires a changé, le visage des animateurs a changé. Et petit à petit, le stage est devenu, la session donc, est devenue stage pour elle aussi s'adapter au niveau social, parce que la musique et tout événement est lié quand même à l'évolution de la société. Ça, on ne peut pas y échapper. Puis le père Bachet, donc prêtre toulousain, a pris la direction en 1995. Il a su encore lui aussi s'entourer de jeunes animateurs, musiciens, professionnels. Certains sont devenus même des compositeurs de bien connus, voilà. Et puis Pierre Barthès a pris la relève avec Patrick Lamont, qui lui était du diocèse de Montpellier. Et tous ensemble, puisque là j'étais déjà dans l'équipe d'animation, on a travaillé à introduire ce qui avait été un petit peu oublié, ce dont le père Gaël reparlait tout à l'heure, de la nécessité de remettre l'acte musical non plus en premier, mais au service de la liturgie de l'Église, d'où l'enjeu du discours et de la pastorale du cantique, l'attention du texte, l'attention de la disant la foi, que la musique doit servir. Et après toutes ces années, donc on continue à essayer d'avancer, de continuer à vivre. On s'est installé, après avoir eu une mission itinérante, puisqu'on allait de diocèse en diocèse, mais les conditions sanitaires sont de plus en plus difficiles pour
obtenir. Donc là, maintenant, vous êtes à Lourdes depuis un certain nombre d'années.
Voilà, depuis un certain nombre d'années. Il est possible qu'on fasse un petit tour, comme on a fait il y a quelques années au Grand Séminaire ici. Enfin, ça, rien n'est fixé, mais on est obligé d'aller voir des lieux porteurs aussi,
eh oui.
Qui peuvent accompagner un grand nombre de personnes. Et on continue d'avancer en n'oubliant jamais d'où on vient. Je parle de la musique, hein. D'où on vient et qu'il y a des mouvances nouvelles, vous en parliez tout à l'heure, d'où petit à petit la mise en place, en plus des stages et des ateliers qui existaient, d'un atelier d'initiation au grégorien et maintenant d'un atelier de louange et liturgie, afin que chacun, avec son style, avec ce qu'il ressent et ce qu'il est, puisse trouver sa place dans une liturgie, pas forcément à la messe, mais dans une liturgie, quelle qu'elle soit. Chacun peut avoir sa place, vraiment. Et on sait vraiment que cette œuvre lancée par les moines d'Ankalka continue une route consciente de tout ce qu'elle doit, sans oublier donc ce qu'elle doit aux grands anciens, et qui nous ont ouvert une voie vers des choses merveilleuses. C'est-à-dire l'annonce du Seigneur, de Dieu.
Voilà. Merci pour cet historique, Anne-Marie Pouillon. Alors, ce stage de musique liturgique qui est proposé donc chaque année par les provinces de Toulouse et de Montpellier, mm-hmm. il va se tenir donc à Lourdes, hein, vous l'avez dit, du 27 juillet au 2 août. À quels impératifs répond-il ? Est-ce que vous voulez répondre, Simon Jouan ?
Oh ben, il répond, il essaye de répondre. Comme le disait Anne-Marie, à l'actualité, à la fois à cet héritage que l'on reçoit et dont on doit, voilà, on est dépositaire, et puis essayer de se mettre à jour. Alors on a des propositions diverses et variées pour à peu près tous les acteurs musicaux de la liturgie. Donc on a des ateliers autour du chant, on a donc un pôle voix dans lequel Marie participe largement. On a un pôle, donc dans le pôle voix on chante, et puis il y a la direction de chœur pour ceux qui voudraient diriger ou qui voudraient s'améliorer dans la direction. Ensuite il y a un pôle célébré avec le père Gaël autour de l'animation d'assemblée, chanter les psaumes, la nouveauté là sur la louange et liturgie. Et puis on a un pôle jouer pour les instruments, donc l'orgue, le clavier, la guitare, la flûte, la sitar, la sitar qui est à cheval entre célébrer et jouer. Et puis voilà, on essaye de se réunir. Le tronc commun, c'est quand même le chant. C'est vrai que tout le monde est invité à chanter. Voilà, et puis il y a divers ateliers. Peut-être que Gaël développera des ateliers rituels. Je crois qu'il faut dire à nos auditeurs que c'est pas une semaine de vacances où on va avoir le temps de flâner et d'aller faire ses dévotions à la grotte. Ça, c'est pas
cette semaine-là. Bon, ben j'espère quand même qu'une petite prière à la grotte pourra être faite. Et c'est vrai que pendant ce temps, il y a quand même une messe quotidienne, il y a les offices, en tout cas les lodes qui sont proposés, et puis des veillées de prière. Donc c'est aussi un temps où on peut prier, même si c'est un temps pendant lequel on se forme. Père Gaël Roucoul, sur ce stage?
Oui, justement, ce n'est pas un stage de musique pour la liturgie. C'est un stage de musique liturgique. C'est-à-dire que la formation qui est donnée n'est pas simplement une formation musicale, mais aussi une formation sur la liturgie. Nous célébrons à longueur de journée. Il y a les laudes le matin, bon, pour ceux qui veulent, ils sont un peu tôt, mais il y a l'Eucharistie au cœur de la journée, chaque jour. Il y a des ateliers, évoquait Simon, pour réfléchir en profondeur sur la nature de la liturgie, sur les rites, sur tel ou tel aspect de la liturgie. Quand nous abordons un chant à travailler, en chant choral, etc., on évoque le texte, on évoque son utilisation liturgique, et c'est l'occasion d'évoquer tel ou tel aspect de la liturgie. Il y a aussi une formation liturgique profonde, j'ai presque envie de dire première, dans ce stage. Et de voir comment finalement la musique vient prendre toute sa part et toute sa place dans l'acte liturgique. Donc c'est un stage de musique liturgique, et tous les retours que nous avons des stagiaires, tout le monde est accueilli, quel que soit son niveau, des plus grands débutants aussi. Toute personne qui a le désir de prendre sa part d'une manière ou d'une autre dans la liturgie est bienvenue et attendue, invitée. Et chacun ressort en disant: nous avons fait une expérience de l'Église ensemble, non seulement dans le mystère célébré, dans le mystère pascal, mais aussi dans le mystère de l'Église célébrante. Et ça, je crois que ce sont parmi les plus beaux retours que nous avons, dans la mesure où cela fait écho à vraiment le but de notre stage, à ce que nous voulons transmettre au nom de l'Église. Et si ça atteint son but, nous en sommes très heureux. Nous en arrivons à la 61e édition. Donc c'est sans doute quand même le signe que cela répond à un besoin pour aujourd'hui. Et donc vraiment que chacun se sente invité et appelé à y participer.
Un stage qui est proposé à partir de 15 ans. Vous disiez, Anne-Marie Pouillon, qu'il y avait de plus en plus de laïcs qui participaient. Au début, c'était plutôt des religieux. Donc on voit vraiment une ouverture. Marie Petit, peut-être en conclusion, ce stage... donc il répond à des attentes, et on l'a entendu par le Père Gaël, ces attentes sont satisfaites. Qu'est-ce que vous, en tant qu'organisatrice aussi, qu'est-ce que vous percevez de l'utilité de ce stage?
Alors il me semble que quand en tant qu'acteurs musicaux, on comprend, on entre dans vraiment le sens profond des rites, de la liturgie, comme disait Père Gaël, on arrive mieux en fait à réaliser le service soit de musicien liturgique en célébration, parce que on sait adapter exactement au sens de la célébration du rite qui est célébré. Et c'est une expérience que j'ai faite moi-même, et le fait de comprendre de mieux en mieux, d'étudier un petit peu la liturgie, fait que je me pose des questions et que je peut-être que j'améliore ou que j'évolue, en tout cas sur mon geste en tant que chantre, ou mon attitude en tant qu'instrumentiste liturgique. C'est pareil, c'est d'être vraiment au service, de développer cette attitude de service.
Oui, c'est ça. Et puis une attitude, on l'entend à travers ce que vous dites, une attitude d'humilité. Au service de ce mystère qui est célébré. Je vous remercie beaucoup, Père Gaël Roucoul, Anne-Marie Pouillon, Marie Petit et Simon Juan. Vous avez présenté aujourd'hui la place de la musique dans la liturgie et son évolution. C'était Vivante Église, votre émission quotidienne de la vie chrétienne en Occitanie. Puis je précise quand même, ce stage donc à Lourdes du 27 juillet au 2 août, stage pour les provinces de Toulouse et de Montpellier, stage de musique liturgique, et un mail pour s'inscrire, et session31@orange.fr. Merci à tous.
Merci.
Merci.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.